étudiant. Et j'étais très... Ça m'amusait parce qu'il y a 50 ans, quoi, un moment, dans le quartier latin, il y avait une école où il n'y avait pas d'aumônerie. Et le prêtre qui était aumônier d'un lycée, je lui ai dit, ben, s'il n'y a pas d'aumônerie, on va en faire une. Et c'était en janvier 69, donc c'était l'ambiance quartier latin, poste 68. Et on avait créé, enfin j'avais rédigé un tract, « Si Dieu existe, il faut compter avec lui ». C'était René Auté à l'époque. Et je suis allé distribuer ça au quartier latin avec une collègue, moi j'étais jeune professionnel. Et d'ailleurs, parmi les jeunes filles qui sont venues là ce soir-là, il y en a une qui est devenue ma femme et qui l'est toujours. Et avec qui j'étais à la messe ce matin, c'est pour ça que je n'ai pas recommunié ce soir. Voilà, donc à un moment donné, donc on s'est mariés. Et puis, tout de suite, on est rentré aux équipes Notre-Dame parce qu'on voulait, pour nous, la spiritualité du couple était très importante. Bien qu'on se soit marié avec les moines de Saint-Benoît-sur-Loire, on n'a pas choisi les hommes-là, pas choisi les équipes Notre-Dame. Et dans notre équipe Notre-Dame, il y a quelqu'un qui a dit, eh bien, le directeur des associations familiales catholiques voudrait créer un service d'aide aux couples en difficulté. Voilà, c'était à Strasbourg. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? On s'est regardé avec ma femme et puis on a décidé que oui. Donc on s'est formé au CLER, qui est un mouvement chrétien de conseil conjugal. Et on a été conseillers conjugaux, on a fait des études qui concernent beaucoup la psychologie du couple. Non universitaire, c'était à l'époque des choses qui ont été faites. J'allais dire soit par les chrétiens, soit par le contraire, la branche planning familial sur ces histoires de couple. Mais par ailleurs, et simultanément, on avait fait des études de théologie avec ma femme à la Cato, et j'entendais toujours parler dans ce milieu-là des tabous judéo-chrétiens sur la sexualité. Ça a commencé à me fatiguer un peu. Et donc j'ai choisi comme sujet de devoir de maîtrise, de licence, j'ai choisi la place du plaisir dans le sacrement de mariage catholique. Alors, des années après, quand j'ai fait mon DU de sexologie, enfin je vous raconte ça parce que c'est important de comprendre pour ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, ma femme me dit, bon, on n'en sait pas assez en sexo, tu devrais faire un DU de sexo. Dans les couples qui fonctionnent bien, c'est facile. Il y a deux mots magiques pour le mari. C'est quand votre femme vous dit quelque chose, vous dites « Oui, chérie ». Vous n'avez aucun problème après. Aucun problème. En fait, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Elle a fait aussi sexo avec moi. Alors, elle voulait faire du droit canon, mais bon, elle s'est fait embaucher. Et elle est arrivée dans un milieu qui n'était pas du tout le nôtre. C'est sûr que en sexo, à la faculté de médecine, les homosexuels ne parlaient pas aux lesbiennes, les lesbiennes ne parlaient à personne. Et puis les partouzards ne parlaient pas aux échangistes, c'est deux sectes différentes. On sera revenu au Moyen-Âge. Bref, nous on a dit, ben voilà, on est fidèles, on est catholiques, on est fidèles, on a l'intention de le rester. Donc finalement, parmi vous, on est comme une sorte de minorité sexuelle. Donc on demande le statut des minorités sexuelles. Enfin, tout le monde s'est marré, puis à la fin de l'année, on a eu du bol, parce qu'on a eu de très bonnes notes. On s'est dit, tiens, les cathos sont peut-être pas aussi cons qu'on avait cru. Et c'était le moment de choisir le devoir de fin d'études, de fin de DU, quoi, de mémoire. Devinez ce que j'ai choisi. La place du plaisir, de la fonction érotique dans le sacrement de mariage catholique. D'abord, économie de moyens. Deuxièmement, intérêt de creuser ce sujet d'un autre point de vue, hein, plus technique. Et puis voilà, donc c'est à un moment donné, donc ça a bien fonctionné dans les deux cas. Et puis, il y a un gars qui m'a téléphoné quelques mois après, ou deux ans après, on va dire, voilà, est-ce que vous voudriez, vous ne me connaissez pas, je suis le PDG des presses de la Renaissance, est-ce que vous voudriez écrire des bouquins pour moi? S'il avait entendu parler de moi, parce que je faisais déjà des conférences. Je dis, mes études initiales, j'ai fait HEC, je suis un HEC. Et un HEC, ça ne dit jamais non, comme un diplomate. Je dis, pourquoi pas, vous avez déjà écrit des choses? Il dit, non, j'ai rien écrit de livre, j'ai écrit des mémoires universitaires. Ça lui a plu, et puis, je lui ai proposé des plans par rapport à mes conférences, et un titre, « Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré. » Oh non, c'est pas du tout un bon titre, c'est trop long, etc. On va appeler ça « Liturgie et orgasme ». Je regarde, vous savez, c'est quand vous êtes jeune auteur, c'est pas vous qui choisissez le titre. Je regarde, je dis « Pour une liturgie de l'orgasme ». Ah, il me dit « C'est meilleur, on signe comme ça ». Alors c'est très intéressant, quand vous signez avec un gars comme ça, il vous envoie un chèque. On avance de recettes. Donc vous avez intérêt à écrire le bouquin. Et c'est le moyen de ne pas traînailler, parce que s'il faut qu'il y ait une carotte. Quoi. Et donc, au dernier moment où il fallait le mettre sous prêt, je l'écoutais. Moi, j'ai fait un petit sondage, liturgie et orgasme, à part deux ou trois groupies, c'est-à-dire ma fille, tout le monde pense que ça va être trop choquant et que ça va inquiéter. Sur 50 personnes, il n'y en avait que deux qui étaient favorables. Et donc il m'a dit, écoutez Olivier, on ne s'acharne pas, on prend votre titre, finalement c'est un bon titre. Et effectivement, c'est un très bon titre. Mais je savais, parce que j'ai fait le marketing, que c'était un bon titre au départ. Et c'est vrai qu'il s'est super bien vendu. Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré. Donc voilà, on a rencontré des couples. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent le personnel qui est décédé maintenant, mais qui a consacré toute sa vie à aider les couples, notamment au sein du clerc. C'est lui qui nous a formés. Il a d'ailleurs écrit la préface de ce bouquin-là. Et quand il a appris qu'on avait fait le DUT sexuel, il est assez bien que vous ayez fait ça avec Marie-Noël, parce qu'on ne sait pas à qui envoyer les gens. Nous, conseils conjugaux du clerc, parce que généralement, ça peut être sulfureux, les sexologues, c'est vrai. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé, elle m'a dit, il faudrait créer un réseau de sexologues chrétiens. Alors, on est parti au moins sur Paris, comme nous on habite en banlieue, on a cherché un local, et là, un curé de Paris, et qui est maintenant évêque, c'était Éric de Moulin-Beaufort, avait entendu parler de moi par un de mes amis psychiatres, et je tiens, dites à votre ami de venir me voir, j'ai peut-être un local pour lui. Et pendant des années, on a été dans le territoire de la paroisse Saint-Paul à Paris. Les curés ont changé, Eric est parti ailleurs, mais le curé actuel ne voulait plus nous voir, donc il nous a virés. Et j'ai téléphoné à Eric de Moulin-Beaufort, j'ai tout de suite téléphoné à des curés qui connaissaient bien sur Paris et qui font des propositions, mais on a choisi une proposition. Les Dominicains avaient un appartement qui leur avait été passé en legs, et donc ils nous l'ont loué pour l'instant. Donc, ça s'appelle le cabinet Saint-Paul, et depuis une dizaine d'années maintenant, un peu plus, on fait du conseil conjugal à caractère sexologique. Donc, maintenant on est 6, en plus de ma femme et moi, il y a un médecin sexologue, il y a un psychiatre, une psychologue de la santé, une... comment c'est? Tu m'as dit tout à l'heure, là. Celle à qui j'ai parlé tout à fait au début, où je te vois pas. Avant qu'on rentre.
Non, oui, toi. Laboratoire d'analyse médicale.
Non, alors c'est pas toi. Ergothérapeute. Ergo, c'est toi. Ergothérapeute. Et donc on travaille à accueillir des couples, et aussi je donne beaucoup d'entretiens par Skype pour des Français de l'étranger. Donc quand je ne suis pas au cabinet, je suis... Voilà. Et depuis quelques années, malheureusement, si je peux dire, et on a une grosse demande sur des gens qui sont accros au porno, ce qui représente actuellement à peu près 40% des gens, je vois. Soit en couple, soit pas en couple. Voilà, donc l'expérience de cette plaisir et sexualité, qui était le titre que vous aviez souhaité. On va regarder ça un petit peu ensemble, rapidement. On a réservé, a priori, dans l'emploi du temps, un temps pour les questions, donc n'hésitez pas, soit à poser des questions après, soit même à me dire, si jamais ce que je dis n'est pas très clair, de m'interrompre pour me dire, me poser la question, sans aucun problème. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on ? Joie, bonheur, plaisir, de quoi parlons-nous ? Alors, je rappelle quelques grandes têtes de l'humanité. Socrate, Un homme heureux est celui qui est capable de réguler ses désirs de telle sorte qu'il ne sera pas l'esclave d'une recherche effrénée du plaisir. Alors, je souscris totalement à cette phrase de Socrate et je vous en reparlerai après. Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, dit « Le plaisir, c'est la perfection de l'acte. » Quand on a à faire quelque chose et qu'on le fait bien, ça doit nous faire plaisir. Alors, comme vous le savez, saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, a dit la même chose. Hein, c'est-à-dire le plaisir et la perfection de l'acte. Autrement dit, c'est complètement idiot de dire que l'Église est contre le plaisir. Alors, c'est vrai que de tout temps et dans toutes les religions, il y a toujours eu une composante de gens qui ont peur du plaisir et qui se crispent sur les choses agréables. Enfin, contre le... Et vous trouvez ça chez des gens qui n'aiment pas la chair. Vous savez qu'au début du christianisme, ceux qui n'aimaient pas les chrétiens disaient « ces gens-là qui aiment la chair ». Parce que pour ces gens-là, à l'époque, hein, par exemple Cels, la seule chose qui comptait, c'est l'esprit. Alors, le plaisir de manger, de boire quand on a soif, de manger quand on a faim, etc., eh bien, pour eux, c'était vil. Et nous, non. Les chrétiens, c'est la place du plaisir. J'ai désiré, d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous. C'est même fondamental dans la foi chrétienne, cette place du plaisir. Moyennant ce que nous dit Socrate, celui qui est capable de réguler ses désirs. Pascal dit, Blaise, l'homme est né pour le plaisir, il le sent, ils n'en font point de preuve. Pour lui, c'était une évidence. L'homme est fait pour le plaisir, grand chrétien. Et puis, un philosophe important, Leibniz, le plaisir est un sentiment de perfection. Vous voyez que dans différents aspects, on s'aperçoit que quand on fait les choses bien, l'une des vérifications possibles, c'est est-ce que ça me fait plaisir ? C'est vrai dans le sport. Là, je lisais le témoignage d'un footballeur qui, je crois que c'était, comment il s'appelle, Pelé, qui disait, ben voilà, à un moment donné, j'étais une espèce de, on appelle ça, en psychologie, on appelle ça le flow ou le flux. On fait exactement le geste qu'il faut au bon moment et tout a l'air de se dérouler comme si c'était écrit de toute éternité. Ça crée une espèce de joie profonde. Le flow. Alors c'est un psychologue hongrois. Alors je vous ai écrit son nom, je ne vous le prononcerai pas, même si je me suis entraîné. C'est Csikszentmihalyi. Pas évident. Donc les émotions ne sont pas seulement contenues dans le flot, hein, et canalisées, mais en pleine coordination avec la tâche s'accomplissant. On retrouve l'idée que le flot, le plaisir profond, c'est quand on réussit un acte. C'est pas quand on ne fait rien, c'est quand on est dans un acte. Le trait distinctif du flot est un sentiment de joie, voire d'extase, pendant une activité. Cet état est caractérisé par un sentiment de concentration, d'énergie, de pleine implication et de plaisir. Comme pour saint Thomas, le plus grand plaisir est celui entraîné par une action projetée et réussie. Alors on n'est pas forcément, nous, dans ce plaisir bouddhique de la joie de ne rien faire. C'est pas chrétien, c'est différent ça. C'est-à-dire de rester... Alors, en revanche, dans la contemplation, on peut avoir ça, mais un moine ne contemple pas 24 heures sur 24. Ora et labora. Bénédictin, c'est... On est toujours dans une tâche, alors qu'il... Là, on a tous la même, la tâche principale, c'est l'évangélisation. Alors, comment on évangélise ? Là, il y a toute la vie aussi variée que possible. Pour le neurologue Loberlustig, le bonheur, c'est le sentiment de ne faire qu'un avec le monde. On retrouvera la même chose dans l'extase mystique. Faire un avec le monde et avec son créateur. La recherche du plaisir pour lui-même mène à l'addiction, toujours pour... comment dirais-je, neurologue de Robert Lustig. Ça, c'est vrai, je le constate tous les jours, hélas. Que la recherche du plaisir pour lui-même mène à l'addiction. Alors, c'est bien de rechercher le plaisir, mais il faut toujours que ça soit dans un cadre. Parce que le plaisir, c'est la perfection de l'acte. dans la sexualité, jouir c'est bien, à condition que ça soit dans un cadre qui me fait grandir. Si c'est justement chercher l'orgasme pour l'orgasme, alors j'ai des clients, ils m'arrivent, c'était le pire, mais enfin quand même, c'est pas mal. 30 masturbations par jour, ça se coupe. Des gens, là, j'ai là, 10, 15, 25 tentations. Pour l'instant, ils luttent, alors je reçois des messages. 25, 25, 25, c'est-à-dire là, 25 attaques, 25 contre-mesures. Et là, il me dit 25 succès. Puis de temps en temps, bah, ils chutent. C'est un combat permanent pour les gens qui sont dans l'addiction, pour essayer de se débarrasser de cette destruction de notre capacité de volonté par l'addiction. Alors, j'ai été chercher aussi ce que le pape François dit dans Amoris Laetitia, qui est un texte absolument génial. La sexualité est un langage interpersonnel où l'autre est pris au sérieux avec sa valeur sacrée et inviolable. Dans ce contexte, l'érotisme apparaît comme une manifestation spécifiquement humaine de la sexualité. On peut y trouver la signification conjugale du corps et l'authentique dignité du don. Alors, c'est ce qu'a écrit le pape François, sauf que quand il écrit ça, c'est une citation de Jean-Paul II. Et dans le texte d'Amoris Laetitia, il y a trois fois le mot érotisme, trois fois pour dire que c'est bien. Alors maintenant, la définition d'érotisme que moi je donne, c'est gérer son désir et son plaisir au service de sa fidélité. Fidélité au mariage, ou fidélité au célibat, peu importe. Autre citation dans Amoris Laetitia, paragraphe 551. François dit, pour Saint Jean-Paul II, l'être humain est appelé à la pleine et mûre spontanéité des rapports, qui est le fruit graduel, progressif, du discernement des impulsions du cœur lui-même. C'est une chose qui se conquiert, et tout être humain doit apprendre avec persévérance et cohérence quelle est la signification du corps. Alors ça, c'est très important. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit le pape, c'est que la chasteté, c'est le fruit d'un équilibre et d'un effort d'apprentissage. De la même façon que de jouer de la guitare, n'importe quelle activité intellectuelle, artistique, le sommet de l'art, ça demande quand même beaucoup de travail. Ça m'amuse toujours de savoir que des cantatrices de renommée internationale ou des danseuses de renommée internationale ont encore toujours un professeur de danse ou un professeur de chant qui continue à la faire progresser. Et les grands joueurs d'échecs, les grands maîtres d'échecs aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'adresse spécialement à vous, dans la vie chrétienne, c'est bon d'avoir un coach, pour employer le mot franglais d'aujourd'hui. Si on avait discuté avec François de Sales, il aurait appelé ça un directeur spirituel, mais ça revient au même, hein, qui vous guide pour vous faire progresser, qui comprend exactement où vous en êtes, parce que c'est pas facile de voir ses fautes, c'est pas facile de voir ses défauts, mais on voit très bien les défauts des autres. Donc on utilise cette propriété de l'humain, que mon coach voit bien mes défauts et donc il peut me les corriger. Donc l'érotisme est l'art de gérer son désir et son plaisir pour réaliser ses buts dans le respect profond de son vis-à-vis. Alors j'ai pas mis le mot partenaire, j'ai mis vis-à-vis, pourquoi ? À votre avis, j'ai mis vis-à-vis. C'est intéressant de... que... Oui, vas-y.
C'est son vis-à-vis, il y a un côté engagement dès le départ, on va dire ça comme ça.
C'est oui, sur le fond c'est vrai, mais surtout c'est que le vis-à-vis, dans le texte de la Genèse qui définit le couple, on parle de son vis-à-vis. C'est une citation de la Genèse. Ouais. C'est intéressant que c'est dans le regard de l'autre, dans nos regards réciproques, que l'on construit notre avenir à deux. Si un garçon avait une fille, que souvent les filles me disent, comment on sait qu'il m'aime vraiment ? Je dis, si tu aimes vraiment, il passe son temps à te regarder. Et réciproquement. Voilà. Et c'est quand un couple s'entend bien, dès qu'il s'agit de faire quelque chose, on recherche du regard l'assentiment de l'autre. Pour voir si c'est bien, enfin, si on ne va pas faire de peine, si c'est pour qu'on soit Bon, c'est la même chose pour un pilote et copilote dans un avion, hein, quand c'est difficile, quand ce n'est pas le pilote automatique qui fonctionne. Voilà. Donc la sexualité et la vie, on va parler un peu plus de sexualité maintenant. Chaque société animale ou humaine gère la sexualité pour le profit de l'espèce. Constitution de couple, parentaux, éducation des petits, commandement du groupe, hein, qui commande dans la horde, etc. Et il y a des mécanismes psychiques dans le cerveau qui vont faire fonctionner de façon automatique la sexualité. Le problème, c'est qu'on a ça. Dans notre cerveau, on a des automatismes, et il va falloir apprendre maintenant à les connaître et pouvoir les débrayer. Alors, vous savez ce qui est arrivé il y a une cinquantaine d'années, c'était justement, c'est à cette période de 69, là, c'était le débarquement des Américains sur la Lune. Et au dernier moment, ils ont débrayé les automatismes pour atterrir sur les dernières dizaines de mètres parce que l'ordinateur était en carafe. Donc à un moment donné, nos automatismes animaux ne suffisent pas pour qu'on puisse gérer nos désirs et nos plaisirs en fonction de notre but humain. Donc il faut passer en commande manuelle. Au-delà de la pure procréation, parce que la sexualité elle a deux fonctions, comme le rappelait Jean-Paul II, une fonction reproductive et une fonction unitive. En fonction reproductive, on est largement battu par les lapins, c'est sûr, plus fort que nous. Mais nous, on a une fonction unitive, ça sert à fabriquer du couple durable, la sexualité. En gros, les femmes sont les seules femelles primates à pouvoir avoir une relation sexuelle quand elles ne sont pas en période d'œstrus. Si une guenon qui n'est pas en période d'œstrus se fait approcher, par un mâle, mais lui, il n'est pas idiot, il n'est pas Weinstein, il ne le fera pas. Enfin, s'il le faisait, il recevrait un coup de dent. Elle ne peut pas accepter l'approche d'un mâle, tout de suite, on l'aurait balancé son porc. En revanche, à partir du moment où elle est en période d'œstrus, tout le monde peut venir.
C'est quoi l'œstrus ?
L'œstrus, c'est quand une femme est féconde, ou quand une femelle est fécondable, ouais. Et que donc c'est le moment, si on veut procréer, d'avoir ce rapport sexuel fécondant. Ouais. La femme est la seule être primate qui est capable d'avoir des relations sexuelles qui ne vont pas donner lieu à une fécondité. Le seul. Donc à quoi servent toutes ces unions quand on fait l'amour alors qu'on n'a pas l'intention de faire un bébé ce coup-ci ? Ça sert, nous dit Jean-Paul II, mais nous dit aussi le sexo, ça sert à fabriquer du couple durable. Parce que le couple de singe, il ne dure pas. Voilà. Alors, la fondation de la dimension unitive de la sexualité, Jean-Paul II le rattache ça, toujours au début de la Genèse, sur le fait qu'on est créé à l'image de Dieu, homme et femme. Dieu les créa et il les appela Adam. C'est un autre texte plus loin dans la Bible où on distingue Adam de Ève. Et au départ, dans le premier texte, l'homme et la femme sont appelés faits de terre, hein, enfin Adam. Hein. C'est intéressant que l'idée que présente de la sexualité le début de la Genèse est une. Réussir à faire une unité avec deux personnes. Alors, l'attirance sexuelle. Je ne suis pas très freudien. Hein, je suis toujours attiré par les côtés scientifiques des choses. Et ce n'est pas vrai que la sexualité démarrerait vers l'âge de 12-13 ans. Dès l'âge de 4 à 8 ans, l'enfant construit dans sa tête l'image du... qui se marie ou pas d'ailleurs... du conjoint idéal dont il rêve. Et on s'aperçoit, une étude a été faite, que 40 ans après, on regarde, et dans 80% des cas, on s'est marié avec quelqu'un qui correspondait à l'idée qu'on s'en faisait quand on avait 8 ans. C'est marrant, hein ? Vous voyez que pour la nature, c'est très important, cette mise en couple. Alors, l'attirance sexuelle, on n'est pas égaux devant l'attirance sexuelle. Il y a des gens qui ont très très envie, pour différentes raisons qui sont génétiques et épigénétiques, beaucoup épigénétiques. Vous voyez ce que c'est que l'épigénétique ? Tout le monde ? c'est la façon dont la génétique s'exprime en fonction des aléas de la vie. Mais c'est très important parce que c'était pas du tout à la mode il y a 100 ans. Et maintenant, on ne parle que de ça et on a raison. Pour vous donner un exemple de sexualité épigénétique, si une femme enceinte a quelque chose de un peu dramatique dans sa vie au cours des deux derniers mois de sa grossesse, elle va développer plus d'hormones de stress et plus de testostérone que normalement. Et donc le bébé va être, comment dire, baigné dans son corps par plus de testostérone que normalement. Alors, si le bébé est une fille, elle a 30% de chances statistiquement d'être lesbienne que le contraire. Si le garçon, si le bébé est un garçon, il va quand même avoir un système d'hypertestostéronémie. Alors généralement, vous tombez sur des hommes qui sont très forts en maths et d'une sensibilité difficile à gérer. Et je me suis étonné il y a quelques années du nombre anormalement élevé de polytechniciens et de normal sup dans les gens qui venaient me voir. Qui ont beaucoup de mal à gérer leur vie affective et sexuelle. Donc, l'attirance sexuelle dépend du taux de testostérone circulant dans le sang, y compris dans le cerveau, y compris chez les femmes. Comme vous le savez, l'hormone du désir, c'est une hormone, pour la sexualité, c'est la testostérone, même pour les femmes et les oestrogènes. Il y a tellement peu de différence entre une molécule de testo et une molécule d'oestrogène qu'on voit bien que, elle passe de l'une à l'autre très souvent dans le jeu chimique. Bon. Et puis, l'attirance sexuelle s'apparente à une faim. Quand vous avez faim, vous cherchez à manger, vous ne posez pas la question de si ça va faire plaisir au sandwich. Quand je dis j'aime le lapin, le président du syndicat des lapins m'a dit: Olivier, on préférerait que tu aimes le veau. Donc voilà, ça s'apparente à une prédation. La sexualité naturelle s'apparente à une prédation. C'est-à-dire qu'on va chercher le mâle ou la femelle dont on a besoin, on ne lui demande pas forcément son avis. On a besoin de lui, on va l'utiliser, c'est une prédation. Et on va chercher à posséder l'autre. Alors, ce processus animal de tomber amoureux ne dure que de 18 à 30 mois, disent les études. Je peux vous dire que si vous voulez faire un petit test comme ça, vous prenez les pages Péople des journaux gratuits. Péople. Non, vous lisez pas les journaux ? Non, vous lisez que Google, les pages People, et vous allez regarder quand ils vous signalent qu'un tel n'est plus avec autre tel, hein, ça fait des unions qui durent 3, 4, 5 ans, parce que c'est chimique. Et ça, c'est très important à savoir. Alors, il y a une fille qui a écrit un bouquin intéressant, c'est « Comment devient-on amoureux ?» Lucie Vincent, qui est une neuroscientifique au départ, mais jolie fille par ailleurs, qui a d'ailleurs épousé Jean-Didier Vincent, qui était un peu le pape des neurosciences en France il y a une vingtaine d'années, 25 ans, et qui n'est pas resté avec lui. Alors j'ai eu à un moment donné, on a fait une conférence ensemble, enfin une conférence, mais une émission ensemble. Et... Alors voyons, j'ai dit, moi je suis pour la fidélité, c'est ce que je recherche. Et dit, elle l'écrit aussi dans son bouquin, moi je ne peux pas résister à passer devant le poudriette dans le frigo quand j'ai faim. Donc elle privilégie des amours non durables. Elle décrit très bien ça. Et alors, bon, de son bouquin, chez Lafont, enfin, Odile Jacob. Il écrit très bien son bouquin parce que tout ce qu'elle dit, elle donne à la fin du bouquin, toutes les citations scientifiques, enfin toutes les études sur lesquelles elle s'appuie pour dire ce qu'elle dit. Après, je vous dirai après la fin de la discussion avec elle. Voilà, cette durée correspond au sevrage des petits chez les primates. En fait, pourquoi 30 mois ? Parce que ça correspond à la mise en couple, à la fécondation, à la gestation, à l'allaitement, et au bout de 2, 3, 4 ans, enfin 4 ans c'est uniquement pour les orang-outans, eh bien, l'enfant, enfin le petit singe, il est autonome, il débrouille, et le couple parental n'existe plus, il n'a plus besoin du couple parental, et la femelle peut se remettre avec un autre mâle à partir. Alors chez les chimpanzés, c'est plutôt 3 ans, comme c'est notre plus proche cousin, nous c'est 30 mois. L'émotion amoureuse cesse, mais se relancera avec d'autres partenaires si le couple n'a pas su ou voulu reconquérir un autre type de relation, le couple d'humains pour le coup, évidemment. Donc il faut faire attention parce que beaucoup de jeunes se mettent en couple parce qu'ils sont amoureux. Sauf que ça va s'arrêter nécessairement au bout de quelques mois maximum. Quand je vois au cabinet, mais je n'ai plus de sentiments pour lui, alors qu'elle était amoureuse folle 2 ans avant. Et ça, c'est important à savoir, parce que si on veut qu'un couple dure 30, 40, 50 ans, ça va être sur d'autres bases que ce sentiment amoureux. On le voit bien d'ailleurs, parce que les expériences ont été faites en imagerie cérébrale. On montre des photos de la personne aimée, dont la personne est amoureuse, garçon, enfin homme ou femme. Et on voit bien l'image, qu'est-ce qui excite, qu'est-ce qui est excité dans le cerveau quand on montre l'image de la personne dont on est amoureux. Bon, évidemment, c'est le cerveau des émotions, hein, le cerveau limbique. Si on fait la même expérience avec une personne, on lui montre la photo de son mari ou de sa femme avec qui on est marié 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est pas du tout la même image qu'on voit. C'est tout le cortex qui est impacté, comme si tout ce que j'ai comme souvenir en commun, projet, peur, réussite avec ma femme ou mon mari, venait tisser plein de petits grappins entre elle et moi, ou lui et moi. L'amour durable, c'est quelque chose qui n'est pas le sentiment amoureux. Alors, c'est une conférence que je fais souvent en groupe de jeunes qui commence par le titre c'est être amoureux n'est pas aimer. Alors, des fois, je change et je mets aimer n'est pas être amoureux. Alors, évidemment, ils trouvent ça un peu choquant au début, mais on leur explique que c'est comme ça. Il faut le savoir pour pouvoir le gérer.
J'ai une question.
Pardon ? Oui.
Ça veut dire que si jamais la durée correspond au sevrage, si jamais une femme retombe enceinte 18 à 30 mois après, on commence de manière animale.
Ah ben, de toute façon, la femme, elle est protégée, je veux dire qu'elle fait un couple parental, comme elle fait aussi un couple avec son petit ou ses petits, pendant 30 mois. Ouais. Voilà. Et là, après, elle est libre, elle devient libre. Moi j'ai vu des femmes qui me disent, j'en ai en ce moment, bon ben quand les enfants ont été élevés, c'est-à-dire études supérieures, enfin après le bal quoi, elle a dit ben, j'ai fini mon boulot, elle a quitté son mari, elle m'a dit je suis pas divorcée d'ailleurs. Elle a mené une vie avec plein d'amants, un truc comme ça, elle a changé de pays, etc. Alors maintenant, elle me consulte parce que, elle est amoureuse d'un amant, mais qui lui, elle est dans le coup des 3 ans, elle se demande ce qui lui arrive. Sauf qu'elle a 57 ans. On peut tomber, vous est pas arrivé, mais si vous allez dans une maison de retraite pour personnes âgées, ou les EHPAD ou autres, vous verrez des petits vieux et des petites vieilles tombés follement amoureux, ils ont 80 ans. Exactement avec les mêmes, comment dirais-je, battements de cœur, tressaillements, c'est tout pareil parce que c'est biochimique. Ah, pourquoi ça s'arrête là ? Pas cleaner alerte, qu'est-ce qu'il dit ? Click here to open it. Non, alors on va dire non. Attends. Bon, le surtout, c'est que. Pourquoi il a changé ? Et voilà. Et ce, jusqu'au grand âge.
Pardon. Excusez-moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'on peut retomber amoureux d'une personne déjà aimé. Et dans cette lignée, plusieurs années après.
Oui. Mais alors là, c'est plus compliqué. D'abord, ça arrive souvent que... mais ce n'est plus la même chose que le début. Même si on dit, ah, ça serait bien, si on recommençait comme avant, ça ne sera pas le cas. Ça sera autre chose. Alors moi, j'ai vu le cas souvent d'une fille qui sortait avec un garçon, elle était très amoureuse, etc. Puis ça s'est arrêté, elle est partie avec un autre, ou lui est parti avec une autre. Et puis, le deuxième couple s'est cassé, et 6-7 ans après, ils retrouvent le premier, ils sont tous les deux sur le sable, là, ils se mettent ensemble. Mais c'est un peu un racolage de... Comment dirais-je, ils essaient de recréer ce qu'ils n'arriveront pas à faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire couple, mais ça ne correspondra pas à ce qu'il y a eu avant.
Et ils ont réussi.
Comment ?
Et ils ont réussi.
Ben, ça dépend lesquels, parce que il y en a qui... Si moi je les vois, c'est qu'à un moment donné, ça ne marche pas bien. C'est pour ça que l'échantillonnage de ma clientèle n'est pas représentatif de la population générale. Forcément. Mais oui, il y en a qui réussissent, parce que aussi, parce qu'on est des humains, on n'est pas des chimpanzés, et donc on peut aussi ramener, dans l'ensemble du problème, d'autres valeurs. Alors, les 5 étapes de la vie amoureuse. Bon, ça, les psychologues ont bien repéré ça. La première, c'est ce dont on vient de parler, c'est la passion, Eros. Le dieu Eros tire une flèche, généralement il avait les yeux bandés, donc il tire n'importe où. Et donc du coup il peut tirer une flèche dans le cœur de telle jeune fille, mais pas tirer la flèche dans le cœur d'un autre jeune homme, et ça c'est pas celui qu'il faut. Donc AMB, ça c'est racine. AMB, mais BMC, CMD, enfin les gens sont... La passion, donc c'est biochimique, c'est très fort, c'est un cocktail d'hormones, avec notamment toutes les... On va en parler quand même, les hormones du désir, la dopamine qui est gérée par d'autres, les endomorphines, comme ça, on est sur son petit nuage, c'est génial. Mais comme ça s'apparente au mécanisme de l'addiction, si on n'a rien d'autre que ça, automatiquement, on va passer dans ce qu'on appelle l'accoutumance. On va s'habituer à ces hormones du désir et du plaisir, ce qui fait que, comme pour la cigarette ou n'importe quoi, il faut augmenter les doses, pour avoir l'effet du début. Donc on rentre dans un cycle addictif. Donc le deuxième passage, désillusion. Troisièmement, lutte pour le pouvoir, je vais les détailler. Quatrième, quand ça arrive, partage du pouvoir, et l'engagement et l'ouverture sur autrui. Alors la passion amoureuse, l'éros, c'est le cerveau de limbique, le cerveau des émotions, qui prend le contrôle et va manipuler nos cognitions, c'est-à-dire notre cerveau noble, là, pour, justifier les actions faites uniquement sur l'impulsion d'une émotion. Alors c'est très intéressant ce truc-là. En 2002, il y a un gars qui a eu le prix Nobel d'économie, qui s'appelle Daniel Kahneman, pour avoir montré que toutes les décisions prétendument, logiques et rationnelles, sont en fait, y compris à la bourse, sont prises sur la base d'émotions. L'émotion, le mot émotion, ça nous fait penser que c'est fait pour nous émouvoir. Donc pour nous mouvoir. Ce qui nous fait bouger, c'est les émotions. Je prends un autre exemple dans le cerveau. Si une émotion forte n'est pas là dans une tranche de vie, on va l'oublier. Mais si une tranche de vie qui nous arrive là, il y a eu une forte émotion, on va s'en souvenir. Positive ou négative. Et donc ça c'est important parce que c'est toujours une émotion qui va déclencher mon action. Daniel Kahneman n'était pas économiste, prix Nobel d'économie, il n'était pas économiste, il était psychologue. Et il a montré ça. Et notamment ça apporte, toute sa thèse, ce qu'on appelle les dissonances cognitives dans lesquelles on rationalise pour se convaincre à soi-même qu'on a raison de faire ça. Mais... Alors ça, vous le voyez bien dans les problèmes d'adultère ou autre, il y a toujours un discours rationnel qui vient soutenir. C'est de la faute de l'autre, c'est de la faute des parents. Enfin, mais voilà, le cerveau fait en sorte qu'il se crée une petite explication à ce qu'il fait vraiment. Je vais le dire là parce que c'est montrer à quel point c'est toujours une image mentale. Je crois que je vais le redire ailleurs dans le montage, mais je le dis maintenant, quitte à le répéter. C'est toujours une image mentale qui déclenche une émotion. Toujours, toujours, toujours. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé, j'ai répété dans mon bouquin. Je ne sais plus lequel des bouquins d'ailleurs, mais pas le premier. Un gars des jeunes avec moi, un Américain, qui n'était jamais venu en France, il devait être nourri à la pizza, enfin un truc informaticien américain. Et moi, je l'emmène royalement à la cantine Thompson pour déjeuner. Et ce jour-là, il y avait de la cervelle d'agneau. Donc moi, j'aime beaucoup la cervelle d'agneau. On n'en voit plus à cause de la vache folle, mais avec un peu de beurre, c'est vachement bon. Et j'en prends, et puis lui, il fait tout comme moi. Et puis on pose nos plateaux, commence à discuter en anglais, évidemment. Puis il me dit, Olivier, j'ai jamais mangé un poisson aussi bon de ma vie. Je lui dis, Jim, it's not fish. It is a lamb brain. Et là, l'idée cervelle était totalement écœurante pour lui. Et le pire, c'est que c'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est l'autre ingénieur avec qui je déjeunais et qui me dit, Olivier, t'as remarqué que quand tu lui as dit ça, il a plus touché rien sur son plateau, même le dessert, même le gâteau, il est parti rapidement. Mais c'est typique, vous voyez, du fait que c'est toujours une image mentale qui va ouvrir soit un désir positif, j'en veux de ça, ça a l'air de me plaire, ou au contraire, une peur ou un dégoût. Toujours une image mentale. Conclusion de ces deux théorèmes que je vais appeler la paternité spirituelle et intellectuelle Saint-Évagre le Pontique. Moi, je dis Saint-Évagre parce que les orthodoxes l'appellent saint. Nous, fin du 4e, début du 5e siècle, a dit, ben c'est simple, quand vous voulez éviter de faire des bêtises, des péchés, eh bien, il suffit de contrôler vos pensées. Et il avait raison. Donc, moi, j'utilise la méthode d'Évagre le Pontique à 15 siècles de distance, ça marche hyper bien, pour apprendre aux gens à contrôler leurs pensées de façon à contrôler leurs actes. Je vous donne un exemple, hein. Une femme vient me voir, jolie femme, mère de famille, 4 filles, zéro désir, elle n'avait jamais eu de désir sexuel. Elle aime son mari là, elle n'a pas de problème de cul de ce côté-là, sauf que sexualité, c'est pas terrible. Mais une fécondité remarquable. 4 filles, elle a fait 4 fois l'amour dans sa vie. Elle avait. Donc elle vient me voir pour voir si on peut changer l'état de... Elle n'avait jamais... Elle s'était jamais montrée nue devant son mari. Ça aide pas. Hein. Alors, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je peux vous aider, oui. Attention, après, si je vous donne du désir, il faudra gérer. Et donc, elle s'était jamais montrée nue devant son mari. Je lui ai dit, bah, voilà, vous êtes dans mon bureau, là, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous retirez votre soutien-gorge devant votre mari. Elle n'avait jamais fait. Elle n'a jamais pensé ça. Donc, je ne vous donne pas le détail de la thérapie, mais une fois qu'elle a pensé ça, elle s'est entraînée à penser ça, parce que je lui ai demandé après, le coup, le soir d'après, imaginez que c'est son mari qui lui retire son soutien-gorge. Et bien, au bout de 6 ou 7 séances, cette femme a découvert le désir sexuel à 40 ans. Il a fallu gérer. Parce que quand une femme, par ailleurs jolie, est désirante, elle est désirable tous les autres hommes de la planète. Et ça n'a pas raté. Il y a un gars qui lui a dit, je suis amoureux de vous. Alors qu'elle le fréquentait en tout bien, tout honneur comme ami, elle m'a raconté ça. Parce que je lui ai dit, c'est normal, parce que maintenant que vous êtes désirante, les hommes vont venir vous solliciter. Alors elle a rompu avec... Elle a dit au gars, ben non, moi je suis marié, j'ai pas du tout envie de... Je suis désolé, mais on arrête notre relation parce que moi je pensais que c'était une relation amicale. Si c'est... on arrête. Elle est obligée d'arrêter cette relation-là parce qu'elle avait trouvé du désir. Alors évidemment, pour le mari, c'est bien. Mais Elle m'a dit, mais ça me parle ce que vous me dites, parce que j'ai été ce matin, c'était hier matin, me dit-elle, traversée en allant à mon travail, et sur le pont, là, traversant la Seine, j'ai vu un homme et je me suis mis à le désirer. À 40 berges. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours quand on contrôle de ses pensées qu'on peut arriver à contrôler ses émotions, y compris sexuelles. Et on le voit bien, parce que bon, le plaisir est une chose, le désir est une chose, le plaisir en est une autre. Vous avez des gens qui ont tellement peur de ne pas avoir de plaisir qu'ils n'en ont pas. C'est toujours une pensée. Voilà, donc la passion amoureuse, déclenchée par les circuits du plaisir et de la récompense, vous voyez ce que c'est, le cerveau des émotions, vous avez vu ça dans vos études médicales, le nucleus accumbens, l'aire tegmentale ventrale qui envoie la dopamine vers les zones du plaisir. L'émotion amoureuse perturbe notre conscience de la réalité pour s'auto-justifier. Moi, dans mon bureau, je vois des gens justifiés de tout, y compris des pédophiles. Ils vont expliquer pourquoi, comment. Pour eux, c'est comme ça. C'est une logique implacable pour eux. Le reste de la société, c'est horrible. Alors, tous les pédophiles ne sont pas comme ça. 90% des pédophiles n'ont jamais touché un enfant. Pourquoi ? Ben parce que c'est pas bien. Et c'est les 10% qui nous gênent. Parce qu'on est, voilà, l'homme n'est pas un automate qui est obligé de faire ce que ses envies lui disent. Alors, désir et séduction. Les hommes sont séduits plutôt par la vue, d'où le soin des femmes pour se vêtir, se coiffer ou se maquiller. Un jour, j'avais une cliente qui était directrice du marketing d'une boîte de maquillage, truc comme ça. Je lui ai dit, est-ce que vous savez pourquoi les femmes se maquillent et pas les hommes ? Ben, c'était jamais posé la question. Alors que les femmes, elles, sont plutôt séduites par les paroles valorisantes. Plutôt, parce qu'il y a de tout. Mais si un garçon veut séduire une fille, c'est plutôt par la parole, par les compliments, ça marche super bien. Alors que la fille, même si elle dit rien, il suffit qu'on la voit. Ah, hop, ça. Difficulté dans la sexualité, 3-5% des personnes ne sont pas attirées par le sexe opposé. 5% sont attirées par les deux sexes. Une personne sur 10 000 se déclare transgenre. Ça fait pas beaucoup, mais quand on est transgenre, c'est pas facile à vivre. Et une femme sur 3 présente des troubles du désir sexuel. Beaucoup, hein, 30%. Comment ?
Les hommes.
Il y a sans doute au moins 20% des hommes. Les difficultés qu'on trouve beaucoup en ce moment, depuis une quinzaine d'années chez les hommes, c'est dans la dysfonction érectile. C'est fou le nombre de jeunes hommes qui sont obligés de prendre du Viagra à cause du porno. Et puis aussi une éjaculation qui n'arrive plus à venir. Aussi souvent à cause du porno. Dysfonction érectile, porno induite, le dépit. Donc Eros, dont je viens de vous parler, c'est un automatisme, il est amoral. Il est là justement, prévu par la nature depuis des milliers d'années, pour faire les bébés. Tourné vers la reproduction, il n'est ni égoïste ni altruiste. Il ne s'intéresse pas au partenaire comme à une personne. Au contraire, dans l'amour, on va privilégier la personne. Et il piège facilement la raison jusqu'aux actes manqués, par exemple de contraception. Un truc étonnant, quand j'étais jeune, c'était les lois sur l'avortement qui arrivaient, le début de la pilule, etc., dans les années 70-75. Il y avait, on disait, enfin, on comptait le nombre d'avortements en France. Après, 80% des femmes en âge de procréer ont une contraception efficace. Pilule, stérilée, des choses. Et il y a toujours le même nombre d'arrêts de grossesse. Pourquoi ? Parce que la nature, les lois sont différentes sur l'avortement aux États-Unis, mais n'empêche que c'est le pourcentage de une conception sur cinq passe est détruite. Et c'est vrai aussi là-bas, c'est toujours une conception sur cinq. Discuter de ça avec des filles du planning familial, qui, pour qui c'était une énigme et une souffrance. À penser qu'avec la pilule, tous les problèmes d'avortement seraient réglés. La fondatrice du planning familial pensait que la contraception servirait à éliminer l'avortement. Ça ne marche pas comme ça dans le cerveau. Oui, le plaisir pousse irrésistiblement à l'acte, surtout quand il est nature. Là, je vois, ma photo n'est pas très nette. Le dénommé James Holmes en 52 montre que en excitant une zone du cerveau du circuit de la récompense par une microélectrode et un microcourant, eh bien le rat y jouit tellement bien qu'il ne peut plus faire autre chose que ça. Donc il est là pour appuyer sur la, s'envoyer le courant avec sa patte sur la, et il oublie de manger, la femelle s'intéresse plus à ses petits et il meurt. Moi je pensais qu'il le débranchait pour avant, mais non. Les rats devraient, on devrait leur donner le prix Nobel parce que c'est eux qui ont fait le plus de boulot dans la science. Ils ont sacrifié leur vie pour la science. Alors j'aime bien cette photo-là parce que j'avais une autre photo que j'avais prise sur Internet et maintenant j'ai une femme sexologue dont le père était de ces pionniers des années 60 en Belgique et j'ai été chercher des photos. Elle m'a passé le mémoire de son père qui est décédé pour prendre la photo de ses rats à lui dans les cages d'expérience. Le sexe sans règles entraîne vers la dépendance ou à la perte du désir. Ça, c'est important. Avec les phénomènes d'accoutumance, comme pour la cocaïne, comme pour n'importe quelle substance addictive, le cerveau se protège en changeant ses réglages de telle sorte qu'il faut augmenter les doses pour avoir le même effet. C'est vrai pour la cocaïne, c'est vrai pour tout. Sauf que l'acte sexuel, on ne peut pas augmenter la dose. Un orgasme, un rapport sexuel, c'est un rapport sexuel. On peut en avoir plusieurs, mais à la fois, ça ne donne qu'une partie de d'endomorphine. On peut pas les... Donc petit à petit, ben, ça ne nous fait plus rien. Ça fait plus rien. D'où des recherches de jouissance par l'adrénaline. Alors, c'est tout ce qui va être sadomasochisme et autres trucs. Oui, je mets. Voilà. Le sexe libéré devient enfin soumission au plaisir. Et la dépendance au plaisir virtuel a été introduite dans le manuel des psychiatres, le DSM, hein, 4 ou 5, enfin c'est dans le DSM-4. La dépendance a déplacé. Avant, on pensait que la suétude, l'addiction, c'était que pour les produits chimiques. Les médecins, et à l'alcool, oui, ça, non, mais ces trucs-là, l'addiction au jeu, au jeu d'argent, etc., c'est pas une vraie addiction. Maintenant, plus personne ne dit ça, quoi, à part quelques gens de l'ancien temps qui disent qu'on s'en débarrassera uniquement quand ils seront morts. Ils ne pourront pas changer. Je vous ai parlé de trois phases, enfin de cinq phases. Ça, c'est la deuxième. Une fois que c'est passé, eh bien, on est dans une phase de désillusion. On croyait qu'on avait trouvé le garçon ou la fille idéale. Mais on s'est accoutumé aux hormones du plaisir. Le plaisir s'atténue. On prend lentement conscience des défauts et de la personnalité de son partenaire. Ah, ben, c'est ça, la fille que j'aime. Ben, pas mieux que les autres. Alors que sinon, on ne voyait qu'elle. On recherchera alors une nouvelle aventure pour retrouver les vives sensations du début. Être délaissé provoque une grande souffrance en revanche. Donc, être maître de son désir, maîtrise de sa peur qui tue le désir, maîtrise de ses envies face à la dépendance sexuelle, masturbation compulsive, paraphilie de timidité. Vous voyez ce que c'est que les paraphilies ? Ben, les paraphilies, c'est toutes les relations sexuelles qui ne sont pas celles qui servent à faire des bébés. Par la pédophilie. Et pour pouvoir être maître de son désir, il faut avoir un objectif de vie, même s'il varie au cours du temps. Alors, la virginité, pourquoi je reste vierge? Ben, parce que j'ai une raison solide dans ma tête. Sinon, c'est trop tentant. C'est vrai pour les garçons, c'est vrai pour les filles. Pourquoi je reste fidèle à mon conjoint? Parce que j'ai une raison de ça. Je me souviens d'un collègue de travail qui parlait d'un troisième, un autre collègue de travail. Il me dit, ben, oui, il a quitté sa femme, il est tombé amoureux d'une autre. Ça arrive, hein, tu peux rien faire. Hein. Lui, ce gars-là, n'imaginez pas qu'on puisse résister, c'est tellement fort qu'on est obligé de se soumettre à la dictature de son désir. Beaucoup de gens qui pensent ça. Ah ben, je suis amoureux, ouais, je l'aime. Il est marié, ben, ça fait rien. Il y a des enfants. Moi d'abord, c'est une prédation. Troisième phase, après cette désillusion, c'est la lutte pour le pouvoir. Alors on s'est fait des idées sur ce que doit être un couple, mais ce n'est pas forcément les mêmes que celles de notre compagnon ou de compagne. Et donc on va se disputer sur tout. D'autant plus que, puisque le désir ne marche plus si bien que ça, quand on a des relations sexuelles, on a toujours des orgasmes éventuellement, mais s'il n'y a pas le respect et la tendresse dans le rapport sexuel, je vais en reparler après, mais je le dis quand même là, eh bien, les cerveaux des deux tourtereaux ne mettent pas en place une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine. Et quand on est, comment dirais-je, en déficit d'ocytocine, on a tendance à ne pas croire l'autre, à être irritable, etc. Voilà, donc vous vous montrez maintenant tel que vous êtes et l'autre aussi, vous vous découvrez avec des envies, des besoins différents, voire incompatibles, notamment dans la façon d'aimer et de s'investir dans la relation. Alors qu'au début, on ne voit rien. Cette lutte pour le pouvoir est inévitable et même nécessaire. Elle permet aux deux partenaires de se situer l'un par rapport à l'autre. Alors en plus, si les parents des jeunes rentrent dans le truc en disant « mais te laisse pas faire », l'autre parent a dit la même chose de l'autre côté. Ne me dites pas qu'il faut que j'aille chez le médecin. J'y étais cet après-midi pour ça. Les frictions deviennent fréquentes dues aux déceptions de notre vie de couple. À ce stade se joue l'avenir du couple. 50% des couples vont se séparer. Mais dans ceux qui ne se séparent pas, les autres 50%, il n'y a que 20% qui réussiront à transformer cette lutte inévitable en partage du pouvoir. Et puis 30%, pour faire 100%, 30% vont développer une relation déséquilibrée avec des moments sympas d'accalmie, mais aussi des moments de crise. Et chercheront ailleurs des compensations dans le travail, la famille ou ailleurs. Ailleurs, ça veut dire des amants ou des maîtresses. Alors, les facteurs de faiblesse de la relation, alors, première difficulté, c'est des gens qui ont des faiblesses, ce qu'on appelle le névrotisme. C'est-à-dire gens qui sont un peu névrosés. Un peu, moyen ou beaucoup. Et même un peu, c'est un facteur difficile pour vivre en couple avec quelqu'un qui... Mais si le couple sait, si la personne reconnaît qu'elle a cette tendance-là, on peut travailler avec un conseiller conjugal pour dépasser cette difficulté-là. C'est pas facile, mais ça marche. Donc deuxième, facteur de faiblesse, mise en couple trop jeune. D'ailleurs, l'Église le reconnaît, c'est une cause de nullité de mariage. Immaturité. 3. Trop grande influence de la famille d'origine. J'ai un copain, qui était jeune, marié plus ou moins ensemble, l'un de leurs enfants, je suis le parrain. On a appris avec stupeur qu'il se s'est alors engagé dans l'Église à fond, qu'il se séparait. Et qu'elle avait obtenu la nullité de son mariage par l'Église, elle s'est remariée après. Et lui aussi. Et des années après, je n'avais pas osé leur poser la question. Je disais à mon ami, je dis, mais quel a été le motif? Vous entendiez, nous on ne voyait pas ça, vous avez l'air de vous entendre bien. Qu'est-ce qui a été pour les avocats, enfin la décision de nullité, de déclaration de nullité de mariage, qu'est-ce qui a été la raison? Eh bien, en fait, même dès le départ, moi j'étais amoureux, mais elle, elle avait des doutes. Et son père lui a dit, si, si, c'est un gars bien, épouse-le. Donc ça a été relaté au juge qui a dit, effectivement, c'est une cause. Elle n'était pas entièrement libre parce qu'elle a obéi à son papa. À cause de nullité de mariage. Ne pas avoir d'autonomie financière, ben ça revient un peu comme le 3. 5. Hein. Manque de projet à long terme. Ouais, retenez bien ça, c'est un couple ne dure bien, statistiquement, hein, que s'il a un projet de couple. On peut avoir des projets personnels, c'est bien, il faut en avoir. Mais il faut aussi avoir des projets de couple. Pourquoi tous les deux on va se marier ou être en couple, peu importe. Si on ne trouve pas une bonne raison ensemble, qui va être notre projet, ben, on va forcément diverger. Donc c'est important. D'ailleurs, l'Église, quand les gens se marient, leur demande de rédiger un projet de couple. Moi, je me souviens d'un jeune prêtre à qui j'ai expliqué ça et qui m'a dit, bah, Olivier, je vais changer parce que moi, je disais à mes fiancés quand je les recevais pour ne pas faire un mariage, dans la brochure qu'on leur donne de fête et saison, il y a un modèle de déclaration, tu la recopies, tu signes en bas, puis c'est bon. Je dis non. La préparation au mariage sert à ce que le couple discerne vraiment à quoi ça sert pour l'Église, pour Dieu, pour vous deux, pour le monde, que vous soyez ensemble, vous, plutôt que d'autres. Et quel sens de notre couple ? Et ça, c'est tout à fait important. Les couples qui n'ont pas de projet se séparent deux fois plus que les couples qui ont un projet. Alors, on peut avoir des projets, puis on peut changer de projet. Par exemple, quelqu'un qui a un projet de vie fort, et puis une maladie, un accident de la route, etc., peut l'empêcher d'avoir ce projet. Donc il faut qu'il reconstruise le couple à un autre projet. Mais il faut des projets. Ce n'est pas forcément le projet de quand on s'est marié. Le couple va évoluer, on dit maintenant, de toute façon... Je vous donne des exemples que j'ai vus, mais... Puis on aura notre maison à nous. Alors, c'est des gens pas très riches, ils construisent la maison, enfin, ils se démerdent pour avoir une maison. La maison étant construite, il n'y a plus de projet, et ils se séparent. Des jeunes de l'immigration, voilà, mon projet, c'est de venir en France. Alors, ils sont tous organisés pour émigrer, pour avoir... Voilà. Et puis, ça y est, ils ont réussi à arriver là, ça se passe bien, etc. Mais ce qu'ils avaient en commun, c'était le vouloir, et il n'y a plus, ça y est, c'est fini. Et ils n'ont plus, bon, ça, c'est pas, tout le monde parle comme ça, hein, mais ils n'ont plus le côté attirant de réaliser un projet ensemble. Je répète, comme je l'ai dit au début, c'est toujours un acte, la réussite d'un acte, donc il faut un projet, il faut agir, mais dans quel sens ? Ben, n'importe quoi, donc c'est un acte qui m'oriente dans la vie. Je sais qu'avec Marie-Noël, on avait dit, on aura des enfants, 6 à nous, 6 adoptés. Un projet, tout ça. On a eu 5 à nous, et après le reste, ça a été de l'importation du sud-est asiatique. Ils ont des prix défiant toute concurrence. Mais ben voilà, à la maison, ils sont passés quand même un an, quand même, en gros, le même projet, ils avaient 5 et 5. Mais voilà, ça nous a animé toute notre vie, cette fidélité à une idée de la famille chrétienne. C'est-à-dire que nos enfants, oui, mais il y en a tellement d'autres qui auraient besoin d'avoir une maman. Voilà. Alors, vouloir être heureux ensemble ne suffit pas à faire durer un couple. Ce qu'on appelle, enfin, le psychologue appelle ça, le couple hédonique. On est ensemble parce qu'on est bien. Quand on n'est plus bien, on va changer. Et notamment, ça ne permet pas d'affronter des difficultés temporaires. 7. Avoir vécu en couple avant le mariage. Les unions après la première sont moins fortes que la première. Vous êtes marié 3 fois, c'est très difficile de pas de résister. Et ainsi de suite. On avait demandé à Brigitte Bardot, mais comment ça se fait que vous épousez encore un gars alors que vous pouvez vous taper tous les hommes du monde que vous voulez ? Et vous, non, vous vous mariez avec une bague ? Elle avait répondu au journaliste. Parce qu'à chaque fois, je crois que c'est le bon. Syndrome des 3 ans. 3-4 ans. Oui. Si vous regardez les statistiques de divorce dans les pays développés, comme l'Europe ou les États-Unis, vous verrez, la courbe des divorces est 3-5 ans. Ces 3 ans, on n'est plus amoureux, mais le temps qu'on s'en rende compte et qu'on freine, ça fait, c'est le mariage, c'est les divorces et les séparations, c'est 3-5 ans. Marié ou pas marié. Quatrième phase, le partage du pouvoir. On ne cherche plus à transformer l'autre pour répondre à ses désirs propres, ni à l'accuser d'être responsable de la frustration de ses illusions adolescentes. Les deux mettent alors l'accent sur la qualité de la relation et l'acceptation de la différence. Je n'ai pas prévu de vous dire ça dans les slides, mais il y a 5 sortes d'intimité. Moi, je suis le sexologue Willy Pazini qui écrivait ça dans ses bouquins. Et il dit, voilà, il y a l'intimité physique, l'intimité émotionnelle, l'intimité ludique, l'intimité intellectuelle, l'intimité sociale et l'intimité spirituelle. Moi, je ne dis pas tout à fait comme lui, je dis l'intimité sexuelle et l'intimité spirituelle, c'est un mix de tout ça. Il faut du physique, il faut de l'émotionnel. Et pour revenir à ça, comment dirais-je, dans l'intimité intellectuelle, par exemple, même si je ne suis pas d'accord avec toi, ton avis m'intéresse. Il y a un respect de la pensée de l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord, je tiens compte de ce que tu dis, ça m'interroge. Je garde... Et ainsi de suite. D'ailleurs, l'intimité physique n'est pas l'intimité de la sexualité. L'intimité physique, c'est par exemple, c'est pouvoir faire sa toilette ensemble, ou même aller au petit coin ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur, on n'a pas honte de son corps devant son conjoint. Beaucoup de femmes n'aiment plus leur corps et ne se montrent plus nues devant leur... quand le temps passe. Et que le corps n'est plus celui qui était le corps quand elle avait 20 ans. Et c'est vrai aussi pour les abdominaux Cronenbourg et Marie. Cinquième phase, l'ouverture sur autrui. Bah, toute l'énergie qu'on consommait pour essayer de maintenir notre couple, une fois qu'on a passé ce cap-là, elle est disponible pour la planète. Elle est disponible par l'ouverture sur autrui. La paix trouvée, l'énergie de chacun devient disponible pour le don de la vie, la fécondité, non seulement par les enfants, mais aussi dans l'utilité sociale du foyer, l'hospitalité et le service de l'humanité. Alors, comme je vous le disais, je suis allé ce soir, la messe à laquelle j'étais avec vous, c'était ma deuxième messe. Quoi. Donc j'ai écouté deux sermons, deux messes, donc deux sermons. Et dans le sermon de ce matin, c'était intéressant aussi... Moi, j'ai eu la chance d'avoir deux sources, de dire que l'hospitalité, le texte sur la parole de Jésus dans Luc, sur le fait « ne vous arrêtez pas dans une première maison, vous restez là », l'hospitalité chrétienne est quelque chose de clé. De clé pour vivre l'évangélisation, hein, l'envoi missionnaire de Luc, là, ça repose sur l'hospitalité accordée par la communauté. Les hospitalités, on va dire. C'est très important. J'avais un camarade de promo qui était d'une famille de province un peu étriquée et il en avait souffert, il était fils unique. Et il me dit, tu vois Olivier, plus tard, quand je serai marié, on aura une chaîne d'amis. Alors, j'ai revu 30 ans après, j'ai dit, est-ce que t'as ta chambre d'amis? Il a posé une chouette fille, mais malheureusement, là, il y a 2 ans, elle est morte. Enfin, il faut dire que tous mes camarades de promo ont mon âge, moi j'étais plutôt les jeunes. Et donc, c'est pas facile, le projet, bah, on aura une chambre d'amis. Alors, c'est pas le fait de la chambre, mais c'est le fait de l'ouverture aux autres. Comment réussir un amour vrai et une union qui dure? Alors nous, on appelle ça l'amour mature, c'est l'amour qui a été pétri comme pour faire un bon gâteau. La fidélité dans la durée permet une éducation des enfants plus performante. Alors au niveau de théorie de l'évolution, eh bien, le fait de l'infidélité, c'est favorable à l'espèce humaine, parce que quand les enfants grandissent dans une famille unie, eh bien, c'est plus facile pour eux. Plus facile pour apprendre, plus facile pour gérer leurs émotions, etc. Il existe une hormone favorisant le lien fidèle, l'ocytocine. Elle donne confiance en soi, confiance en l'autre, bienveillance et fidélité sentimentale et sexuelle. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent l'hormone de l'amour. Alors, l'ocytocine, c'est pas... Les sages-femmes connaissent bien ça, parce que c'est le produit, l'hormone, qui déclenche l'accouchement, l'espasme des muscles de l'utérus, mais aussi la montée de lait, etc. Mais dans le cerveau, le même produit a un autre rôle, sur d'autres récepteurs. Et d'ailleurs, quand une sage-femme fait une piqûre d'ocytocine à la femme, ça ne va pas passer dans le cerveau de la femme. Ça reste au niveau musculaire. Parce que l'ocytocine ne franchit pas la barrière qui sépare le sang du cerveau du sang des autres cerveaux. Ça ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Moyennant quoi, faire des piqûres d'ocytocine ne marcherait pas. Mais si on sent de l'ocytocine, on inhale de l'ocytocine avec un petit pchip-pchip, là ça marche. C'est pour ça que toutes les expériences sur l'ocytocine qui sont faites par des inhalations de cytocine. Un jour, je vais faire une conférence chez des jeunes en province, et les gens qui m'avaient demandé de venir, elle était prof dans son lycée, là. Son mari, il était éleveur de bœufs culards. Vous savez ce que c'est que les bœufs culards? Ce sont des bœufs qu'on élève pour la viande. Alors, les quartiers arrière qui coûtent plus cher, on a sélectionné les bêtes pour qu'elles aient des gros culs. Des gros beefsteaks, des gros gigots. Le problème, c'est que du coup, la vache qui vèle, elle est obligée par césarienne, parce qu'il ne peut sortir pas de l'utérus de la vache. Et donc, c'est toujours déclenché, donc le boulot de vétérinaire, dans ce truc-là, c'est un bord physique, c'est bon. Mais donc, ocytocine. Alors, son mari me dit, regarde Olivier, ton ocytocine, t'as des bidons de 5 litres de cytocine. Voilà. Alors, c'est quand les couples arrivent et qu'on passe notre temps à s'énerver et de s'irriter l'un l'autre, mais pour des queues de cerises, monsieur, pour des queues de cerises. Alors, plus de vie sexuelle, souvent. Ils passent leur temps. C'est toujours pour des motifs futiles, puis ça part en vrille. Alors, j'ai un remède que je leur conseille systématiquement, par écrit et oral, d'ailleurs. Est-ce que vous dormez tout nu dans votre lit, à poil? Non, ben maintenant, à partir de ce soir, vous allez dormir à poil. L'homme et la femme. Ah ben, j'ai froid, je m'en fous, je ne veux pas le savoir. À poil. Là, il faut être ferme à des moments, si on veut vraiment les aider. Parce que les touchers de peau, c'est pas sexuel. Les touchers de peau entre mari et femme, dans le lit, on a du temps, ça va donner de l'ocytocine. Et ça va favoriser le climat du couple. Et ça marche super bien. Pour autant qu'ils le font. Quoi. Enfin, tous ceux qui le font, il y a quand même une majorité, ils le font. Mais il y en a aussi, de temps en temps, ils le font pendant 3-4 mois, puis après, ils arrêtent. Non, on n'arrête pas. Mais c'est fou. Alors, vous allez me dire, mais vous savez déjà ça, quand vous voyez un enfant qui a un cauchemar la nuit, vous le prenez dans les bras, et ocytocine, ça calme tout de suite. Vous avez une personne qui sort d'anesthésie avec peur, et puis etc., vous lui tenez la main, ça marche. Une personne qui est accidentée sur un attendant les secours, vous lui prenez la main. Si vous pouviez la prendre comme ça serait encore mieux pour les affres de la mort. Moi, j'ai eu la chance que mon grand-père maternel et mon père sont morts dans mes bras comme ça. Ça aide à passer le cap. Voilà, donc c'est très important de... Vous voyez, la place du corps, je reviens sur Jean-Paul II, la place profondément